Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Il est 11h sur votre radio. Vous comprenez sans doute que vous avez rendez-vous avec l'émission Club de la Presse. À partir de ce mardi 10 décembre 2024, les prix des produits pétroliers à la pompe sont revus relativement à la baisse sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce a été faite hier. En effet, le super samplon passe de 700 francs à 680, j'allais dire. Et CFA soit une réduction de 20 francs CFA. Le pétrole lampant reste inchangé, 650 francs CFA. Le gasoil est désormais à 695 francs CFA contre 775 francs CFA. Et le mélange de temps quitte de 788 francs à 769 francs CFA. D'après les informations, cette révision des prix s'inscrit dans un contexte où les tarifs des produits pétroliers sur le marché mondial affichent une tendance à la baisse depuis plusieurs mois, et cette réduction de prix soulage-t-elle des Togolais ou les Togolais en général? Le gouvernement ne peut-il pas mieux faire? Et aussi sur les produits de première nécessité, je poserai la question à mes confrères dans cette émission Club de la Presse de ce mardi 10 décembre 2024. Nous aborderons bien évidemment d'autres sujets liés à l'actualité. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas était aussi d'Activi assure la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Géraud Dakoucha. Je suis Pascal Lossou au micro. Comme toujours, vous nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekor, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais vous pouvez aussi nous suivre alors sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, et du continent africain et du monde entier. C'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au mardi. Mardi, l'équipe de mardi se met déjà en place. Et Adam Adronou est là. Adam, bonjour.
Bonjour Pascal, merci de m'avoir invité. Bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent sur la 93.5.
J'espère que tu as bien démarré la semaine.
Oui, ça va, ça va.
Dieu merci. Eric Parcoudio-Johnson, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers confrères, chers amis, auditrices et auditeurs de Canal FM, bonjour.
Bien démarré la semaine aussi?
Oui, tout va bien, merci.
Dieu merci. Alors, Jean-Baptiste Atissot, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous ceux qui sont câblés et qui nous écoutent sur les ondes de Radio Canal FM à travers le monde entier.
J'espère que vous allez bien.
Ah, nous rendons grâce à Dieu.
Pas à pas, nous tendons vers la fin de l'année, c'est bien ça.
Oui, justement, justement. Les jours qui nous séparent de la fin d'année sont vraiment très comptés, à peine une vingtaine. Et la page de 2024 sera tournée.
Et il faut aussi assez de prudence, surtout sur
la circulation,
les routes.
Naturellement.
Voilà, c'est très important. Alors, aujourd'hui, Claude ne sera pas avec nous. Nous allons recevoir plutôt un invité. Et ce serait bien sûr l'écrivain Assem Koufivi qui serait avec nous. Mais on l'attend bien sûr alors dans ce studio pour parler de cette bande dessinée que nous sommes en train de décrypter depuis un temps. Et Claude nous en avait bien sûr parlé. Mais on essaiera toujours d'en parler avec l'auteur lui-même. Et je sais qu'il aura beaucoup de choses à nous dire en ce sens. On l'attend bien sûr dans ce studio. Alors, avant quand même d'aller peut-être vers l'écrivain, parlons culture, restons toujours dans la culture. Et Eric, vous savez bien le fait, vous nous informez qu'il y a une inauguration, et c'est l'inauguration du centre de promotion féminine d'Ogou 1. Et vous écrivez: un centre de promotion féminine d'Ogou 1 inauguré ce 3 décembre 2024 par Yawa Kuigan.
Oui, effectivement, Pascal, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement togolais fait un focus sur le genre dans notre pays et c'est pour promouvoir la femme. Et donc, c'est de bonne guerre qu'un centre de promotion féminine a été inauguré le 3 décembre dernier à Tapamé, plus précisément dans la commune Ogou 1, sur la colline d'Oké-Ekpa. Et donc, madame la ministre Yawa Kugan, ministre de la communication, des médias et de la culture, porte-parole du gouvernement, et en même temps la maire de cette commune. Et donc, elle a inauguré ce centre-là qui a pour objectif de donner à la femme ce qu'il faut pour son développement dans la commune. Et elle a dit que c'est pour permettre à la femme de contribuer au développement de son milieu de vie tout en étant en forme. Et on parle d'un centre qui va s'occuper de la santé de la femme, un centre qui va permettre à la femme de s'instruire, d'être alphabétisé, de pouvoir recevoir des soins en cas de violence, surtout, il ne faut pas oublier, de violence faite à la femme. Donc, ces femmes-là, lorsqu'elles sont dans ce cas, elles peuvent recevoir des soins psychologiques pour leur permettre de retrouver leur humanisme, donc humanité. Donc, je crois que c'est un centre qui est très important pour la localité. Et quand on dit centre de promotion de la femme, je pense que ce n'est pas forcément uniquement pour les femmes de la localité, mais des femmes qui se trouvent un peu dans toute la région. Et donc, lorsque vous êtes une femme, vous pourrez y aller pour recevoir des conseils pour la promotion de l'autonomisation, surtout de la femme, permettre, guider les femmes pour qu'elles puissent contribuer forcément au développement de leur milieu.
D'accord. Adam, quand on suit le développement de Eric par rapport aux objectifs et aussi à la mission assignée à ce centre, on aurait dit quand même que on penserait plutôt quand même que ce centre doit être sur toute l'étendue du territoire national puisque chaque région aurait besoin vraiment d'un centre comme cela.
Oui, je pense que c'est le souhait. Vous savez, lorsque la politique, en tout cas au sommet de l'État, promeut donc la femme, il y a c'est le lieu de saluer en tout cas l'initiative de Madame le maire de Logou qui a su implémenter en tout cas ce dont a commencé le plus haut sommet. Et je pense, comme vous l'avez dit, si cela était opportun, et cela en est. Et bien évidemment, puisqu'elle fait office également, en tout cas, qu'elle régente, je pense, le conglomérat des maires du Togo. Je pense que même si l'initiative n'est pas, en tout cas, initiée dans ce cadre, il serait quand même opportun qu'on puisse avoir de ce genre de centre-là. Mais je pense qu'elle a planté le décor, il appartient quand même aux maires, à tous les autres maires, même si... eux-mêmes ne trouvent pas opportun. Je pense que l'opportunité que le chef de l'État a donnée à l'une de ces femmes-là, je pense que c'est le cas du maire Kugan. Il y a lieu véritablement qu'elle puisse aussi encourager au regard des valeurs que portent ces centres-là, encourager les autres maires à emboîter le pas. Mais tout ceci également dépend des moyens. C'est vrai qu'elle a eu l'initiative, mais vous savez qu'il y a également
Et ne pas oublier qu'elle est même la présidente de la fêtière des communes
voilà,
du Togo.
Voilà, c'est aussi ministre de la culture, ministre de la communication et de la culture.
Ah, donc, vous voyez, donc les choses s'accumulent qui vont dans l'intérêt qu'elle puisse véritablement faire en sorte que si même chaque commune ne puisse pas disposer, qu'on puisse quand même les avoir au niveau régional, serait quand même bien salué.
Ouais. Jean-Baptiste, ce centre, c'est à saluer. Et tel que je le disais tout de suite, on aurait vraiment besoin alors de ces genres de centres dans pratiquement toutes les régions, pour ne pas dire toutes les communes, les 117.
Oui, bon, a priori, créer un centre de promotion des femmes, c'est une bonne initiative qu'on doit quand même louer, parce que cela contribue tant soit peu à édifier les femmes et à travailler à leur autonomisation, à leur épanouissement dans la globalité pour finir à leur développement. Si on s'entend aux objectifs assignés à ce centre, sinon l'initiative est louable et le bon sens voudrait que cela soit, qu'on l'appelle, dupliqué, s'il y a les moyens, dupliqué dans les autres communes. Hein. C'est ce que nous pouvons quand même dire à propos de cette initiative qu'a prise Madame Kuiga. Mais au-delà de ça,
il faudrait. C'est ce qui m'intéresse, bien sûr. Au-delà de ça.
Il faudrait quand même que, aujourd'hui, il y a au Togo beaucoup de compétences qui sont en latence. Donc, il faudrait quand même que le chef de l'État essaie quand même d'éviter les cumuls de fonctions qui ont cours ça et là, parce que il y a des jeunes qui attendent, il y a des gens qui chôment pendant plusieurs années, plusieurs décennies peut-être, et qui sont là.
C'est toujours la promotion de la femme. Hein?
Bien sûr. Non, elle n'est pas la seule femme qu'il faut promouvoir. Ok. Donc,
il y a beaucoup de femmes autour.
Bien sûr, tu conviens avec moi, parce qu'elle fait partie de la cellule de communication de la présidence. Donc, avant de cumuler toutes ces fonctions, je crois qu'il y a lieu quand même que le chef de l'État tourne ses regards vers ailleurs également. Sinon, on n'a rien contre elle, mais vous voyez qu'une seule personne avec toutes ses casquettes, c'est trop. Et l'aspect aussi qu'il faut souligner, c'est que les postes de nomination et puis les postes électifs, je crois que le chef de l'État doit faire l'effort pour ne pas faire cumuler ces postes aux gens, parce que ça, il y a peut-être parfois des conflits d'intérêts.
Et le centre de promotion?
Non, oui. Bon, ça, j'ai parlé du centre de promotion. J'élargis mon sens d'analyse, n'est-ce pas?
Éric, laisse Jean-Baptiste, il est à l'étape des cumuls.
Ce n'est pas bon. Il faudrait quand même que le chef de l'État tourne ses regards vers ailleurs pour faire valoir d'autres compétences et faire en sorte que les postes de nomination et les postes électifs ne se cumulent pas. Mmh. Parce que ce n'est pas normal si nous tenons à son poste de ministre, qui est un poste de nomination, et le poste de maire, qui est un poste électif. Je crois que ce n'est pas bien quand même de voir ces postes cumulés. D'accord. Et elle n'est pas peut-être la seule personne à cumuler ses postes de ministre et de maire. Il y a d'autres personnes qui le font, mais je crois que quand vous analysez à fond, ce n'est pas bien. La preuve, par exemple, si on prend un autre maire que vous connaissez très bien ici, vous savez, si la personne est élue maire et en même temps nommée ministre, vous voyez que peut-être si le poste de ministre de l'administration territoriale revient à un maire, je vois très mal comment quelqu'un peut être maire et être ministre de l'administration territoriale.
Vous trouvez d'incompatibilité?
Bien sûr.
D'accord. Alors, Eric, c'est vrai, moi, l'aspect que je voudrais toucher pour ce que nous disons, c'est vrai qu'on a commencé cette question de promotion du genre ou promotion de la femme depuis, mais est-ce que vous avez l'impression que ça prend?
Oui. Personnellement, je pense que ça prend. Parce que, vous voyez, il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui rentrent dans ce cadre-là. Et ça fait que la femme est en train de sortir de sa carapace de femme au foyer pour être maintenant femme qui a pu plutôt l'homme dans tout ce qu'il fait. Vous savez, il y a quelques années encore, et les femmes étaient plutôt destinées au foyer. Elles n'avaient pas de fonction. Et ça fait que aujourd'hui, quand vous voyez les jeunes générations, les gars n'arrivent plus à se marier. Pourquoi? Parce que le poids de l'éducation, le poids matériel et financier devient très important, et donc l'homme a besoin de la femme pour l'aider dans tout ce qu'il fait. Et là, je pense qu'aujourd'hui, avec toutes ces initiatives-là, les gens sont en train de sortir de leur torpeur pour pouvoir appuyer les hommes. Et pour moi, ça prend, et quand vous regardez un peu aujourd'hui aussi, le taux de scolarisation de la femme, quand vous regardez le nombre de femmes dans l'administration, quand vous les voyez aussi aujourd'hui, regardez, on dit pour des élections législatives ou communales, il faut un certain taux de femmes. Si ces femmes-là n'ont pas été, enfin, à l'école, peut-être qu'on va parler tout à l'heure des sénateurs, aujourd'hui, il faut aller, il faut avoir un certain niveau pour pouvoir occuper ces postes-là. Et pour moi, ça, c'est en train de prendre. Mais ça prendra tout le temps que ça prendra, mais c'est sur la bonne voie.
Ah oui, mais Adam ?
Oui, moi je pense que c'est un débat qui est loin d'être tranché ici. Vous savez, c'est vrai que lorsque vous prenez au niveau intellectuel, la promotion, etc., il y a lieu quand même de pouvoir donc s'interroger même sur l'efficacité de ces actions-là. Mais lorsque vous descendez au bas niveau, moi ce qui m'a toujours inquiété, ça a été un sujet majeur dont j'ai toujours médité, c'est justement faire en sorte que cette égalité tant prônée depuis des lustres, qui a fait même en tout cas l'objet de plusieurs projets, programmes, etc. Mais nous voyons que lorsque nous descendons à la base, ça ne prend pas assez. Ça ne prend pas assez, mais je pense qu'il y a des valeurs que les femmes même doivent s'imposer. Et ces valeurs-là, lorsque vous prenez, on parle d'égalité, surtout lorsque, dans l'absolu, ce que je dis, il y a certaines qui le font, mais lorsque vous prenez dans les foyers, combien sont-elles à pouvoir véritablement aider, en tout cas, leur conjoint époux à pouvoir prendre en charge, les charges surtout familiales. Mais ceci également, moi je pense, c'est une question éducative. Puisque lorsque vous prenez dans le foyer, vous prenez les enfants, lorsqu'ils ont tous les besoins, que ce soit tous les besoins, hein, on ne va pas les citer, tous les besoins, on s'adresse à papa. Même les besoins qu'on peut s'adresser à maman, on s'adresse à papa. Vous convenez avec moi que si vous avez dans le couple un garçon, lui, il apprend directement de il sait que les charges qui incombent à la famille, c'est papa. Donc lui, il apprend ça. Mais justement, dans ce même foyer, lorsque vous avez des filles, elle également apprend que lorsqu'on a les charges, c'est papa qui les résout. Doit arriver dans son foyer futur, lui également va vouloir rester en retrait, que c'est papa qui le fait. Donc moi, je pense que ça doit être une prise de conscience collective et que les femmes doivent s'assumer et faire en sorte que dans les années à venir, qu'on puisse avoir une société véritablement égalitaire. Bah, en tout cas, je le dis, c'est pas quand même pour, en tout cas, faire en sorte que les hommes se déchargent de leurs responsabilités. Ce sont des responsabilités que nous également nous avions appris depuis le bas âge, que nous continuons par assumer. Mais jusqu'à quand? Donc, il faudrait quand même que cette égalité puisse également prendre en compte ces aspects de la chose pour que les années à venir, qu'on puisse avoir une société ou des couples véritablement égalitaires.
Non, mais justement, pose cette question.
C'est une question de sociétale où nous, en Afrique, on pense que c'est l'homme qui doit tout faire.
Et donc, on se dit qu'il est le chef du
Il est le chef de famille, et donc tout ce qui concerne la famille lui incombe. Mais malheureusement, avec la société qui se développe et tout ce que nous prenons des autres, cette conception-là n'est plus vraie.
C'est d'actualité.
C'est pour ça, j'ai dit, aujourd'hui, avec toutes les initiatives qui se prennent un peu partout pour aider la femme. Quand on parle de l'égalité du genre, c'est quelque chose qui ne sera jamais total. Il faut le reconnaître parce que la nature humaine même a déjà mis un frein à ça. Il y a des choses, si vous voulez bien, que la femme ne peut jamais faire. Elle peut être présidente, mais il y a des choses dans son foyer qu'elle ne peut pas faire. Ça, c'est inné à l'homme.
Comme quoi
Pascal.
Vous savez, cette vulnérabilité de la femme, c'est vrai qu'elle est bien à plusieurs niveaux. Mais ce qui est important, c'est que vous savez, lorsqu'il y a des problèmes et que ces couples-là se transposent vers les juridictions, on sort les tests. Mais la contribution de la femme également, je pense que ce sont les tests, hein, ce sont les tests également qui le disent, à un pourcentage donné. Mais lorsqu'il y a de ces genres de problèmes, on feint de ne pas reconnaître dans ces tests-là.
Il n'y a pas de pourcentage.
Non,
il n'y en a pas.
De,
Non, il n'y a pas de. Vous voulez vérifier le code de la famille, c'est de quoi il parle.
Je crois que là.
Non, je pense que.
On laisse ça.
Non, il y a le code de la famille qui le dit en poussant, même si dans la procédure, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on puisse tenir compte des tests qui le disent dans les deux aspects de la chose.
D'accord. Oui, Jean-Baptiste, c'est vrai que pour cette question de promotion de la femme, on parle plus de discrimination positive. Est-ce que finalement, on n'a pas l'impression qu'on donne beaucoup de choses à la femme et que finalement, la femme elle-même n'arrive pas à saisir aussi l'occasion?
Je crois que pour parler de la promotion de la femme, il faudrait que les femmes méritent ces promotions. Si on doit peut-être concevoir le concept de discrimination positive pour faire promouvoir les femmes, je crois que l'objectif ne sera pas vraiment atteint. Parce que aujourd'hui, dans nos pays, les Africains et surtout au Togo, il y a des pesanteurs qui sont d'ordre social et aussi culturel, ce qui font que aujourd'hui, la femme ne peut pas s'égaler, même si on veut faire une promotion, la femme ne peut jamais s'égaler aux hommes. Mais l'entendement général, surtout en termes de promotion d'emploi qui se fait ça et là dans les institutions que nous voyons, c'est une bonne chose, mais c'est que parfois c'est biaisé. On parle de promotion de la femme, mais derrière, il y a de l'anguille sous roche, parce que ceux qui parlent le plus de la promotion de la femme à des postes de responsabilité, patati patata, ils ne sont pas vraiment, clairs dans leurs ambitions, parce que vous le savez bien que moi, que des idées qui sont derrière. Parce qu'on veut promouvoir la femme, mais l'idée qui est cachée derrière, c'est autre chose. Donc, c'est ce que nous devons quand même chercher à corriger. Si on veut vraiment faire la promotion des femmes en général, il faudrait qu'elles méritent les postes auxquels elles aspirent et des conditions seront là pour les accompagner. Mais quand on dit on veut faire une promotion et avec des idées derrière, je ne pense pas que ce soit la bonne option.
D'accord.
Et au-delà de ça, nos tests qui, je veux nommément parler du code de la personne et de la famille, n'a vraiment pas donné de pourcentage en termes de contribution aux charges de ménage, mais le code a nommément plutôt parlé de la femme et de l'homme comme les comment l'appelle-t-on,
les gens qui doivent construire ensemble.
Le terme échappe tout petit peu, mais c'est qu'ils sont des pères de famille. C'est qu'il n'y a pas aujourd'hui il n'y a pas une sélection pour dire que c'est le monsieur qui est le père de famille et donc c'est lui
qui est le pilier de la famille.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas une discrimination pour dire que comme il est le monsieur, donc c'est lui qui doit faire les dépenses.
Les responsabilités sont partagées.
Sont partagées, d'accord. Bien sûr, mais à égalité.
D'accord, merci beaucoup Jean-Baptiste. Nous allons quitter le sujet. On va s'intéresser à ce sujet qu'évoque Adam à la une, alors de son journal. Je veux bien parler alors de la foire. Non, je veux bien parler de la foire. Vous écrivez désillusion, dysfonctionnement et désenchantement à la 19e foire internationale de Lomé, vers un déclin de la foi internationale de Lomé. Alors, je suis un peu tiqué quand j'ai lu le titre.
Non, pourquoi être tiqué? Non, c'est connu de tous. Vous savez, la foire, d'abord, vous prenez la plupart des Loméens, sinon, dans la moindre mesure, les Togolais, qui ont toujours considéré cette foire-là, surtout étant donné qu'en prélude aux fêtes de fin d'année, c'est le moment de convivialité, de retrouvailles, festive pour la plupart du temps. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas constaté, en tout cas lors de ces deux dernières éditions, en tout cas nous sommes allés à la rencontre de ces Togolais-là qui ont fréquenté ces dernières éditions de la foire. Donc il y a pas mal de préoccupations. Ils essaient d'indexer la plupart du temps l'arrogance de l'administration qui n'est pas sensible à leurs préoccupations. Et on a constaté également qu'il y a eu pas mal de vols qui ont été donc constatés. Et on a constaté également qu'il y a, en tout cas, une sorte de... les pavillons sont donc retrocédés à des gens qui donc les revendent à prix d'or. Donc, lorsqu'on parle de ça, vous convenez avec moi que derrière ça, ce sont des rétrocommissions. C'est la première fois qu'il y a plus mobilisé en termes de force de l'ordre de sécurité. Jamais, aucune fois, parce que nous parlons des moments festifs, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui a motivé, en tout cas, qu'on puisse en faire pratiquement un camp. Parce que c'est ça.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi l'affluence, la mobilisation des uns des autres alors sur le site?
Est-ce à dire que cette deux fois ou cette fois-là, parce que nous parlons de la dizaine, 20 fois, a plus mobilisé que les fois que nous avons connues? Pas du tout.
Mais je l'ai dit, on parle de chiffre record quand on nous donne le chiffre de 704 000 visiteurs.
Nous avons même fini, nous sommes revenus sur la dernière fois, nous ne parlons pas de celle-ci, puisque la dernière fois, c'est cette fois-là,
la 18e
fois, où on nous a également parlé de chiffres records. Mais lorsque nous comparons, nous essayons donc de pouvoir donc revenir sur ça, pour voir sa contribution, en tout cas dans le budget, ce qui a été dégagé. Parce que nous constatons que ce qui a été dit, dont nous allons revenir, nous n'allons pas, en tout cas, mettre la charrue devant les bœufs pour démonter en réalité que c'est quand même des chiffres fantaisistes qui sont envoyés. Parce qu'on ne peut pas nous dire qu'on a fait deux fois plus que ce qui était là, mais la contribution n'est pas à la hauteur de ce qu'on nous donne tant donc à nous dire. Et donc, vous voyez, donc il y a une sorte de désenchantement, en tout cas de ce qui sont allés à cette fois-là, les mécontentements des exposants. C'est vrai, lorsque certains nous disent, l'Occident nous dit non, voilà, la foire, c'est pas le lieu de vendre, donc de toutes les façons.
C'est pour l'exposition.
L'exposition, mais en tout cas, nous sommes dans un contexte, en tout cas, africain, togolais. Hein. Ça ne passe pas, en tout cas, sur les exposants. Personne ne viendra là-bas payer cher, les standards qu'on lui dise véritablement que voilà, c'est pour exposer, donc ta préoccupation de vente-là ne nous concerne pas. Mais je pense que c'est du mépris vis-à-vis donc de cela, et donc justement en le disant, c'est justement faire en sorte que cela puisse être amélioré pour que la foire retrouve en tout cas son éclat d'antan, cette retrouvaille festive qu'elle a toujours été, ce que nous n'avons pas constaté lors de cette 19e fois, à part les deux derniers jours, parce qu'il faut être également objectif, comptant véritablement donc à mettre comme étant un trophée de guerre parce qu'il y a eu mobilisation, mais en réalité lorsqu'on nous le prenons du premier jusqu'à des derniers jours, je pense qu'il y a de quoi se préoccuper de cette fois-là.
Eric, c'est vrai, l'administration de CTF nous a donné des chiffres, a avancé des chiffres même d'ailleurs par rapport au bilan. On parle de 704 000 visiteurs à cette fois, 19e foire internationale de Lomé, et on parle de 1300 exposants. Alors, est-ce que ce ne sont pas des chiffres records?
Record par rapport à quelque chose.
Oui, justement.
Peut-être à l'année. Ce qui s'était passé l'année dernière. Oui, ça, c'est des chiffres que l'administration a donné. Et nous, nous n'avons pas d'indicateur pour dire autre chose aujourd'hui. Mais ce que je pense fondamentalement, c'est que il y a eu beaucoup trop d'écrits ou de propos négatifs par rapport à cette foire. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que l'administration de la foire doit tenir compte de tout ça pour améliorer la prochaine édition. Moi, je pense que les Togolais ont une certaine idée sur la foire. Est-ce que l'objectif que se fixe les organisateurs de ces fois-là, est-ce que c'est le même objectif chez les visiteurs? Parce que...
Les exposants.
Et les visiteurs.
Les visiteurs et les exposants aussi.
Oui, les visiteurs surtout. Parce que tout tourne autour du nombre de visites aujourd'hui. C'est pour ça que je parle des visiteurs. Les visiteurs, les gens y vont en ayant à l'esprit qu'à la foire, les prix des produits seront baissés, qu'il y aura des promotions, certainement. Mais cette idée-là, parce que pour les toutes premières foires, c'est ce qu'on avait inculqué aux gens comme idée. Quand vous arrivez à la foire, vous trouvez des choses moins chères et les gens y allaient pour s'arracher les produits. Mais l'administration dit en réalité que la foire, c'est pour exposer, faire voir les produits, faire leur promotion et justement faire, non pas forcément les commandes, mais faire le B2B, c'est-à-dire que échanger avec des partenaires, oui. Faire du partenariat avec d'autres, parce que vous êtes dans un domaine et vous avez peut-être des sous-traitants, vous avez des gens. C'est avec ces gens-là que vous venez discuter pour tisser des partenariats pour le faire plus tard. Mais ce qu'il y a, c'est que les exposants aussi trouvent que les stands sont de plus en plus chers. Ce que Adam évoquait, par exemple, les gens qui achètent qui ont des stands qui viennent revendre à prix d'or et tout ça, moi, je trouve que c'est du business. Nous sommes dans un centre de business. Les gens, ils ont été très rapides pour s'arracher des stands. C'est à leur risque et péril. S'ils ne revendaient pas, mais ça fait une perte pour eux. Mais donc, c'est du business, ça peut se faire. Mais on souhaiterait plutôt que tout ça là soit bien encadré.
Voilà. Donc, il n'y a pas de spéculation,
voilà, de spéculation
sur les
clés. Il faut que tout ça là soit bien encadré par l'administration de la foire.
D'accord. Jean-Baptiste, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, telles que Eric l'a dit tout de suite, il y a beaucoup de choses négatives qui ont circulé autour de la foire. Et quand on écoute tout cela, on se dit, mais alors, qu'est-ce qui n'a pas marché cette fois-ci?
Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne saurais répondre parce que la meilleure réponse proviendrait de l'administration de la foire.
Que tu n'auras jamais.
Ah bon. Et puisque déjà le bilan est satisfaisant selon
l'administration. Peut-être on ne va pas trop jouer à la diplomatie pour feindre la réalité parce que les gens ont été à la fois, les gens ont observé, les médias ont observé ce qui s'est passé et les gens ont, interrogé les exposants, les visiteurs et aussi ont eu leur opinion par rapport à ce qui s'est passé à la fois. Donc, si même l'administration va essayer de peindre en blanc ce qui s'est passé, je crois que les gens ont eu leur opinion sur ce qui s'est passé réellement. Donc, si Eric parle des choses, négatives qui ont été dites sur la foire, je crois que...
C'est juste un constat.
Ça pourrait aussi dépendre de l'administration parce que tout commence par l'administration et finit par l'administration du CTF. Donc, c'est à eux de s'organiser et peut-être d'expliquer à fond sur pourquoi la foire est organisée. D'abord, en commençant par les exposants. Est-ce que les exposants épousent l'idée de la foire? Est-ce que ce pourquoi on organise, le gouvernement organise la foire à travers cette administration du CTF, est-ce que cet objectif-là, les exposants qui viennent solliciter des stands, est-ce qu'ils s'inscrivent bien dans cette dynamique? Sinon, s'il y a cacophonie entre l'objectif poursuivi par l'administration et puis les exposants, les objectifs divergent, je crois qu'il y aura assez de communication négative par rapport à cet événement d'envergure nationale et internationale.
Mais est-ce que là aussi, il n'y avait pas aussi un problème de communication?
Justement, c'est pour cela que je dis tout dépend de l'administration du CTF. Les responsables du CTF n'ont pas quand même peut-être mis les moyens expliquer à fond d'abord aux médias et aux exposants sur pourquoi bien l'objectif, bien les objectifs qui sont visés par cet événement. Donc s'il y avait une cohésion entre les médias, les exposants et puis l'administration, je crois qu'il n'y aura pas de communication négative. Mais c'est parce qu'il y a eu faille quelque part qu'aujourd'hui, on déplore des communications négatives.
D'accord.
De la part de cela.
Vous savez, la préoccupation majeure des Togolais ou de tout dirigeant, c'est justement d'avoir l'intérêt général au centre des préoccupations. C'est vrai, Eric parlait donc d'un business, etc. Mais lorsque nous prenons la foi telle qu'elle est, est-ce que vous estimez que c'est bien que le social, c'est vrai que nous parlons du business parce que de toutes les façons, c'est de vendre, même si la préoccupation de l'administration du CTF n'est pas devenue vendre de toutes les façons. Nous qui allons fréquenter cette foire-là, en tout cas, pour la plupart du temps, les gens vont pour faire des achats. Ils vont pour faire des achats. Il y a la fin de l'annonce que c'est le moment de solde. Et c'est l'unique lieu où vous retrouvez pratiquement tout ce que vous cherchez, parce que vous n'allez pas vous permettre de promener, de marcher à marcher pour trouver. Mais lorsque vous allez à la foire, à moins d'une heure ou d'une heure de temps, deux heures,
vous
trouvez pratiquement tout. C'est le moment des soldes. Donc, c'est en cela qu'il faudrait mettre la préoccupation majeure sur l'intérêt général. Si tel est le cas, je pense qu'il y a beaucoup de commerçants qui sont venus. Pourquoi monnayer encore les stands pour parler dans du business et les autres? Et lorsqu'on les vend plus cher, vous savez que le Togolais aujourd'hui, de toutes les façons, même si les efforts sont faits par le gouvernement, de toutes les façons, on sait qu'il y a des difficultés. Et chaque commerçant veut vendre. C'est en cela que la préoccupation, si tel est qu'on n'avait pas une idée derrière, l'administration du CITEF devait prendre en compte cette préoccupation majeure des Togolais, faisant en sorte que les stands puissent être au même prix et faire en sorte que plusieurs puissent en avoir et venir dans exposer au lieu de pouvoir dans les monnaies les revendre à plus cher.
Et qu'il n'y ait pas de sous-traitance.
Non. Je ne suis pas en train de défendre l'administration de la voie. Je constate juste, vous savez, dans tous les domaines, lorsque vous allez sur un terrain de business, attendez-vous à ce qu'il y ait de ces cas-là. Quelqu'un qui demande, on dit l'achat ou bien la location de stand est libre. Donc, je peux demander 5 stands. On me les offre. On ne va pas me dire...
Dans la mesure du possible.
Mais lorsqu'il y a la disponibilité.
C'est ce que je dis.
Nous ne disons pas que les gens sont venus faire en même temps la demande et on a dit non, on ne peut pas vous servir parce qu'il y a tel qui a demandé. Non, ce n'est pas ça. Les gens payent très rapidement les stands attendant qu'il y aura certainement des gens qui ne vont pas trouver, qui viendraient à eux.
Et c'est du
ça,
business.
C'est du business.
Oui, mais bon.
Vous ne pouvez pas occulter ça. C'est du business. Et ça se passe partout.
Ce que nous disons, je pense que ça permettra d'améliorer. Parce que la
et justement, si par exemple, vous savez, on peut même dire que c'est un stand par exposant. Vous allez voir que les gens vont trouver d'autres. Oui, ils vont trouver d'autres astuces
pour
faire acheter. Mais c'est clair, quoi. C'est du business.
C'est de la spéculation.
À quel niveau?
Non, mais Pascal, ce qu'il faut retenir, c'est que de toutes les façons, vous avez vu l'année dernière, par exemple, il y avait le parking des sponsors et des partenaires qui avaient fait défection dans le dispositif d'organisation. Mais lorsque ça a été décrit, je pense que cette année, ça a été ramené. Et je pense que c'est intéressant. Tout ceci donne honneur à certains qui ont dû quand même contribuer à la réussite de cette fois-là. Donc, je pense que le DG, c'est vrai que on peut pas parler d'incompétence, mais de toutes les façons, il y a des failles avant qu'ils ne se retrouvent. Faut pas quand même qu'ils soient distants de ceux qui ont organisé, que ce soit les cadres du ministère, que ce soit ceux qui ont eu à organiser cette fois-là. Faut pas quand même qu'ils les mettent à dos, parce qu'il ne va pas réinventer la roue.
Comme quoi, c'est à l'ancienne corde qu'on tisse
la nouvelle.
D'accord. Ok, on va quitter le sujet. J'évoquais ce sujet maintenant dans mon mot introductif. Vous le savez très bien que déjà depuis ce matin, il y a les produits pétroliers à la pompe, bien sûr, qui sont revus à la baisse. Et pratiquement, quand on prend le pétrole, enfin, prenons d'abord le super sans plomb, pratiquement, c'est une réduction de 20 francs. Et c'est ce constat qui est fait même depuis ce matin, ce mardi matin. Alors, Jean-Baptiste, quand vous avez appris justement cette nouvelle, on dirait tout simplement que c'est un pas.
C'est un pas, mais un pas tardif.
Comment ça, c'est tardif?
On ne peut pas dire très tardif parce que vous savez, depuis l'année dernière, je crois, depuis le 28 janvier, si ma mémoire est vraiment fidèle. C'est
2023.
Oui, 28 janvier 2023 que il y a eu une augmentation du prix des produits pétroliers et nous avons commencé par subir depuis pratiquement, ça fait pratiquement 2 ans que nous subissons, parce que en janvier prochain, dans quelques jours, ça va faire 2 ans d'augmentation et on a fait subir les Togolais ces augmentations là pendant tous ces mois-là. Mais figurez-vous bien que le prix du baril a baissé, ça fait pratiquement plus d'un an. a baissé drastiquement depuis plus d'un an, mais le gouvernement togolais a maintenu les prix des produits pétroliers jusqu'à ce jour. Mais on nous a fait croire que chaque fois, le gouvernement togolais passe des commandes chaque 3 mois. C'est ce qui nous a été dit plusieurs fois par le ministère du Commerce. Mais imaginez si c'est au bout de chaque 3 mois, on passe des commandes depuis là. Pourquoi avoir fait subir les hauts Togolais ces augmentations jusqu'à ce jour, pratiquement 2 ans, si réellement c'est au bout de chaque 3 mois on passe des commandes? Alors il va falloir qu'aujourd'hui, on a toujours crié ici qu'il faut adapter les prix des produits pétroliers, comment l'appelle-t-on, aux fluctuations internationales, mais cela n'a jamais été le cas chez nous au Togo. On nous fait croire que, bon, peut-être le gouvernement va sortir dans la journée ou bien demain que, à travers une conférence de presse pour dire que ils ont toujours subventionné les prix des produits pétroliers, mais réellement ça, on ne voit pas ça. On ne voit pas ces subventions. Et ça se répercute directement sur le prix de la consommation.
Et des produits de nécessité.
Des produits de nécessité, parce que aujourd'hui, depuis, on a souhaité que quand il y a une baisse, il faudrait que ça se répercute sur le prix des transports. Mais il y a des baisses, on ne voit pas ça. On ne voit pas, parce que les tarifs, je me rappelle encore, étaient peut-être de Lomé à Nero. Quelques années, on était à 600 francs, mais aujourd'hui, c'est presque 1500. Le déplacement de Lomé à Nero. Chez moi, par exemple, dans le Yoto, on est à 2500, 3000. Alors qu'on était pratiquement en 2000, en l'an 2015, comme ça, on était à 700 francs.
C'est plus de 24 ans déjà.
C'est ça. Non, je ne parle pas de 2000, de 2015.
Ah, d'accord.
De 2015. Mais aujourd'hui, on est à 3000. Voyez,
près c'est de que 10 ans, hein.
Non, il n'y a pas réellement une adaptation des prix des produits de transport aux tarifs du transport intra et interurbain. Il n'y a pas une adaptation. Donc il va falloir que chaque fois qu'il y a une baisse, il faudrait que les transporteurs se retrouvent avec les membres du gouvernement pour réadapter, réajuster les prix des transports urbains et intra-urbains.
D'accord. Et Eric, les Togolais auraient voulu que cette diminution soit plus drastique, de telle enseigne qu'on est peut-être alors 100 francs, 200 de moins par rapport à ce que nous avons.
Effectivement, nous sommes tous consommateurs et donc notre souhait est que le prix soit encore plus bas. Sauf que c'est un produit dont le prix fluctue saisonnièrement et surtout par rapport à des situations internationales comme les conflits, les guerres, et autres.
Des crises.
Et des crises. Je pense que quand nous rentrons dans cette économie-là, et nous disons que c'est une économie très incertaine. Vous n'arrivez pas à maîtriser totalement tout ce qui se passe autour de cette économie. Et je crois que la baisse qu'on a entendue hier soir, souhaitons que ce soit juste, comme tu as posé la question, un début, un premier pas, n'est-ce pas? Mais que rapidement cela suive réellement le coût du pétrole sur le marché international. Parce que, vous savez, le prix du carburant agit énormément sur tout ce qui est commerce dans le pays. Vous imaginez les gens qui vont chercher des produits vivriers à l'intérieur du pays, quand le prix du carburant augmente, tout de suite on dit le prix du transport augmente. Et tout de suite, sur le marché, il y a fluctuation.
Voilà.
Aujourd'hui, on cherche à stabiliser les prix des produits vivriers et surtout des produits de première nécessité. Mais quand vous allez sur le marché, vous constatez que ces prix ne cessent d'augmenter. Et tout ça là, on vous explique que c'est lié au coût du pétrole. Et donc, il faut forcément faire un effort dans ce domaine-là pour atténuer un peu la souffrance des populations par rapport au prix sur le marché.
D'accord. Alors, Adam, oui, ben, le gouvernement a fait un pas, mais on aurait voulu quand même que ça soit encore un pas de géant pour que ça soit encore plus conséquent par rapport à cette reddition.
De toute évidence, ce ne serait jamais suffisant. Et comme vous le savez, tout Togolais consommateur du brut. Et bien évidemment, tout le monde aurait bien voulu que le sang soit à 500 francs pour nous permettre de rouler en plein temps nos voitures et autres. Ce qui n'est pas évident. Mais ce qu'il faut faire remarquer, c'est que nous savons tous que c'est un sujet hautement sensible où, dans l'absolu, il serait très difficile de trouver une opinion ou une formule qui puisse, en tout cas, sous-tendre nos analyses. Mais je pense que nous devons, lorsque nous remontons un peu l'histoire, je me rappelle, c'était au moment du ministre Adedjelossi, il était le ministre du Commerce, où la même question était posée en ce qui concerne ces fluctuations sur le marché international. Je me rappelle qu'il avait dit, à part la subvention de l'État, si l'on devait s'en tenir au prix du marché international, voilà, le pétrole, c'est à tel prix qu'on devait donc le vendre. Il a demandé aux gens d'aller faire leur propre calcul. C'est vrai, le gouvernement a subventionné et continue d'ailleurs même à ce que ça n'est pas subventionné le pétrole sur le marché international. Donc, mais je pense que c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure lorsque Jean-Baptiste parlait de 3 mois, c'est vrai qu'on avait dit qu'en 3 mois, en tout cas, on sait qu'on fait des prévisions pour faire en sorte que l'on ne puisse pas arriver aux pénuries et faire en sorte que même s'il y a des fluctuations, qu'on ne puisse pas tout de suite augmenter pour en tout cas faire en tosse au portefeuille lié donc à cette subvention-là. Mais lorsque nous faisons la sommation de tous ces éléments-là, et c'est pourquoi je dis, dans l'absolu, il est très difficile de pouvoir avoir une formule qui puisse permettre d'argumenter et de tenir droit dans ces bottes en ce qui concerne la question pétrolière. Mais ce que je sais, de toutes les façons, le gouvernement ne peut pas volontairement, quels que soient les cas, faire en sorte que on puisse peut-être augmenter ou ne pas diminuer tant qu'il y a diminution sur le marché international. Ce que nous savons, de toutes les façons, chaque ministre, lorsqu'il vient, il veut marquer son temps. Et justement, on sait, lorsqu'on augmente le prix du carburant, de toutes les façons, tous les produits prennent un coup. C'est en cela, d'ailleurs, même lorsqu'il y a eu sensibilisation, encourager donc les gros exportateurs à faire en sorte qu'on puisse stabiliser le prix de certains denrées alimentaires ou autres sur le marché. Mais certains ont trouvé que, voilà, au regard du fait que j'ai commandé tel, lorsque vous y allez, il ne diminue pas et on vous demande que vous demandez que le gouvernement a dit devant tel. On vous dit d'aller dans la boutique du gouvernement. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est dit tout simplement que lorsqu'on est commerçant, il est très difficile. C'est vrai, il y a des spéculations. On fait un effort de mettre les inspecteurs et tout pour faire en sorte que le prix ne soit pas trop à la limite du possible être peut-être nouveau. Ça se passe aussi en pharmacie. Hein, vous verrez que les pharmacies, c'est indifférent. On a toujours, en tout cas, des différents. Que ce ne soit pas des différents qui soient insupportables.
D'accord.
Aux consommateurs. Mmh.
Oui, Jean-Baptiste,
je crois que bon, nous devons être réalistes et demander au gouvernement de faire tout son possible pour que la vérité des prix puisse surgir dans ce qui se fait au niveau des produits pétroliers. Mmh. On ne peut pas nous dire que on fait des efforts et faire subir une augmentation pendant presque 2 ans aux populations, pendant que
il n'y a pas eu augmentation, mais maintenir le prix.
Oui, bien sûr, on a augmenté.
Sur le plan international, le baril a subitement une baisse.
Bien sûr, depuis plus d'un an. Donc maintenant, si l'augmentation, la dernière augmentation qui a eu lieu en janvier 2023, c'est cette augmentation-là dont je parle et qui a été maintenue jusqu'alors, presque 2 ans, ce qui est anormal. Donc, moi, le gouvernement, si il tenait à appliquer la vérité des prix, c'est-à-dire suivre le rythme des commandes, si le gouvernement commande et si, au bout des 3 mois, il y a eu augmentation, qu'on fait subir l'augmentation population et
les trois mois suivants. S'il y a baisse, on fait subir la baisse aux populations. On sait qu'il y a réellement une, c'est-à-dire qu'une fluctuation des prix. S'il y a une fluctuation au niveau international, il faudrait que la fluctuation aussi, comment l'appelle-t-on, rejaillisse sur la population.
Comme quoi, il faut quand même que le développement ait un visage humain.
Absolument.
D'accord. Mais Jean-Baptiste,
il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier. Oui. Il y a le gaz butane que nous cherchons, bon, le gouvernement cherche à oublier parmi les augmentations et les diminutions qui ont eu lieu pendant plusieurs années. On est là. Je crois que à la dernière augmentation de janvier 2023, on a porté le prix du gaz butane de 6 litres à, je crois, de 3150 maintenant à 4700, presque, oui, c'est ça, presque 5000 et, comment on appelle, 12 kilos à 11000, pratiquement plus de deux ans, pendant que nous crions que la population essaie de ne pas faire le, comment l'appelle-t-on, couper les arbres pour faire le bois de chauffe, etc. C'est la protection de l'environnement. On maintient le gaz à un prix tel que les populations sont toujours obligées d'aller recourir à la coupe de bois.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste.
Je voudrais juste dire.
Oui, rapidement, Eric.
Jean-Baptiste, il y a une situation qu'il ne faut pas perdre de vue. Hein. Lorsque le
nous
prix.
Nous ne perdons rien de vue. Dans les pays limitrophes, le gaz de cette année à 2000 francs.
C'est Eric, voilà, oui.
C'est à 2000 le
moi je ne parle même pas du gaz. Lorsque le prix du pétrole sans plomb, de l'essence sans plomb était à 700 francs. Vous imaginez qu'il y a eu une augmentation du prix du baril et qu'on augmentait. Vous imaginez ce que ça peut être automatiquement dans le pays.
Pendant tout ce temps, ça a subi une baisse.
Maintenant, oui. Lorsqu'il y aura baisse et qu'on reviendrait encore à ce prix, vous voyez aussi, c'est-à-dire que c'est des ajustements aussi qui se font pour que quand il y a augmentation, qu'on soit quand même à un certain taux pour ne pas faire subir trop ça.
D'accord. Eric, on va aborder la question politique avec la mise en place alors du Sénat. Et vous en parlez à la une de votre journal ou dans votre journal ce matin, l'Union pour la Patrie. Vous écrivez « Mise en place progressive des institutions de la 5e République, 61 sénateurs à élire le 2 février prochain, c'est-à-dire 2 février 2025. »
2025, oui. Ouais. Donc, nous avons tous eu l'information par en conseil des ministres où oui. Il a été décidé quand même que le corps électoral soit convoqué pour le 2 février 2025 pour l'élection sénatoriale, une première dans notre pays. Mais depuis, la question était de savoir quel sera le nombre de sénateurs à élire. Et donc, il y a une ordonnance du chef de l'État qui date du 5 novembre, qui a fixé le nombre de sénateurs, les indemnités, les conditions d'éligibilité et tout ça. Et donc, c'est cette ordonnance qui dit qu'il y aura au total 61 sénateurs. Et les deux tiers seront élus par les élus locaux, à savoir les élus,
les maires ou les conseillers régionaux.
Les conseillers régionaux et les conseillers municipaux. Et donc, le tiers sera nommé par le chef de. Le président du conseil des ministres. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est plus le chef de l'État, ce n'est plus le président de la République, mais plutôt le président du Conseil des ministres. Ça veut dire que dès qu'on aura fini cette élection sénatoriale le 2, il faut que le président du Conseil soit également élu pour que le Sénat puisse avoir son nombre au complet. Parce qu'il faut... Et les deux tiers dans l'ordonnance, c'est 41 sénateurs qui seront élus et 20 sénateurs qui seront nommés par le chef de l'État. Et donc, il y a eu toutes les conditions.
Le président du conseil,
voilà, pardon. Ce n'est plus le chef de l'État.
Voilà.
Et puisque dans la constitution de la 4e République, c'est le chef de l'État qui devrait nommer le tiers des sénateurs. Mais dans la constitution de la 5e République, c'est le président du Conseil des ministres qui va nommer les 20 sénateurs pour que les sénateurs soient au total 61.
D'accord. Oui, Jean-Baptiste.
Pascal, tu permets, ce n'est pas moi qui pose les questions, mais j'ai une question pour Eric. Comment est-ce que le président du Conseil va nommer les 20 autres tant que nous ne connaissons pas ce président du Conseil?
Mais je viens de le dire.
Il a dit tout de suite, tu
n'as pas suivi tout simplement.
Comment ça va se faire?
Je viens de dire qu'une fois que les 41 sénateurs seront élus,
le 2 février,
on doit avoir le président du Conseil des ministres. Et c'est lui qui va nommer maintenant les 20 sénateurs pour que les 61 sénateurs soient au complet.
Il dit les institutions de la 5e République sont en train d'être mises en place.
Progressivement.
Vous savez, entre-temps, c'était donc la préoccupation des uns et des autres qui disaient, voilà, les sénateurs ne sont pas mis en place. Aujourd'hui, je pense que ça est en train d'être fait. Mais ce qu'il faut faire remarquer, puisque entre-temps, vous savez, c'est un flou kafkaïen entre-temps. Mais aujourd'hui, on commence déjà par voir clair. On nous a dit les dispositions, on nous a dit l'âge, lorsque vous avez 35 ans.
35 ans révolu.
Vous pouvez faire à deux candidatures en cas d'égalité de voix, c'est le plus âgé qui prend.
Oui.
On sait véritablement les institutions qui ne peuvent pas faire acte de candidature. Mmh. On sait également que tout Togolais également peut également faire acte de candidature. Puis entre-temps, on disait, voilà, il faut être élu. C'était véritablement une sorte de salade russe aujourd'hui. On commence déjà pas à voir clair. Et je pense que la question du président du conseil ne devait plus être posée. Parce que de toutes les façons, nous savons la fourchette de temps qui est impartie, en tout cas pour la mise en place de toutes ces institutions-là. Si tel est que peut-être on a extrapolé ces délais-là, déjà nous avons le sénateur qui sont réunis, on nous a dit 2 février, ça veut dire qu'après ça, la question du président du conseil ne devait pas causer problème, puisque de toutes les façons, ils ne vont pas extrapoler la fourchette de temps indicative pour faire en sorte que toutes ces institutions soient à plat. Donc, vos inquiétudes trouveront des réponses, à mon avis, et comme l'a si bien titré Eric, en parlant des institutions de la 5e République qui se mettent progressivement en place, je pense que vous devez encore, en tout cas, patienter, ça va se faire.
Et bien, Jean-Baptiste, c'est vrai que ce qui apporte des critiques à cette question, surtout de la 5e République, pense que quand on parle du Sénat, c'est budgétivore pour le Togo. Est-ce que vous avez aussi la même impression? Je sais qu'il y a un communiqué même d'ailleurs de Touche pas à ma constitution qui parle alors du folklore des élections sénatoriales. Et dans ce communiqué, il y a le mouvement ou le front Touche pas à ma constitution qui dit que le peuple togolais aspire légitimement à une élection présidentielle transparente et équitable, une gouvernance qui soulage les familles togolaises de la précarité économique, la fin d'un système gangréné par la corruption, l'exercice plein alors et entier des libertés publiques, individuelles et collectives. Alors, je reviens à ma question par rapport au fait que les détracteurs parlent plutôt du Sénat qui est budgétivore.
Bon, je crois que le Sénat n'est pas la seule institution qui est budgétivore. L'Assemblée nationale même, qui est passée de 91 députés à 113, est aussi une assemblée budgétivore parce que notre pays, quand on se réfère à la taille du pays, on en a pas besoin jusque-là. 113 députés, c'est aussi budgétivore. Et le soi-disant Sénat aussi va s'y ajoindre.
Et les gouverneurs,
voyez tout ça là, c'est budgétivore. On a l'impression que, alors qu'au même moment, les populations ont du mal à trouver leur pitance. Ça ne se conçoit pas. Hein? La gouvernance. Aujourd'hui, on est en pleine capitale. Difficilement, les gens trouvent à manger une seule fois par jour. Alors que nous avons un pays qui est très riche en ressources.
Les gens trouvent à manger beaucoup plus au village qu'en ville.
Oui, vous savez, non, non, la capitale, l'économie, l'économie est censée bouger plus en capitale que, qu'à l'intérieur du pays.
Ah, mais non.
Comment non? Tu ne peux pas dire dans toutes les capitales, l'économie du pays bouge dans la capitale. Mais si aujourd'hui, en pleine capitale, les gens trouvent, les gens vont rivaliser avec les riz, avarier avec
les. Parle d'un lieu consacré. Lorsque vous allez au village, il y a.
Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Donc, avec ça, là, je crois que aujourd'hui, on ne va pas faire la politique de l'autruche et en feignant la réalité que les Togolais vivent. Nous devons être réalistes pour dire que la gouvernance est très mal. Va très mal dans notre pays. On doit le dire.
D'accord. C'est votre point de vue, oui.
Oui, oui, c'est ça. Parlant de ces institutions qui se mettent en place, ça n'engage que ceux qui font ce folklore. Parce que aujourd'hui,
alors, il y a. Vous parlez de folklore?
Bien sûr, parce que le coup d'État constitutionnel. Le coup d'État qui a été opéré par les 91 députés et qui a été corroboré par le chef de l'État le 6 mai, par une soi-disant promulgation, ce coup d'État reste toujours dans l'air. C'est un coup d'État qui a été opéré. On ne doit pas l'occulter. Et l'histoire ne va pas tolérer cela. C'est un coup d'État constitutionnel. C'est ça. Et ça constitue une gangrène dans la gorge de la CEDEAO. Parce que notre pays qui clame toutefois que c'est l'un des initiateurs de ces institutions sous-régionales. Aujourd'hui, c'est le Togo qui cause plus de problèmes à la CEDEAO.
D'accord, ok. Nous allons en arrêter là pour ce qui concerne le débat. Et je sais que vous qui êtes à la maison et vous qui nous suivez, vous vous impatientez alors pour participer à cette émission. Vous voulez aussi apporter votre contribution à ce débat. Nous allons vous donner la parole et c'est sur le 90 86 35 35 91 36 ou en 315. Mais vous pouvez aussi nous écrire sur notre numéro WhatsApp. C'est le 90 45 soit 18-57 pour interagir avec nous, bien sûr, en studio. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour la terrine, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour monsieur, c'est monsieur Espoir.
Espoir, vous nous appelez d'où?
Pardon?
Vous nous appelez d'où?
Vous nous appelez... Pardon, je n'entends pas. Hein?
Vous nous appelez de quel quartier?
Ah oui, oui, je suis à Zangou.
Ah, vous êtes à Zangou. Allez-y, Espoir.
Oui, oui. 5e République, 6e République, 7e République, jusqu'à 10e République, c'est pas ça le problème. Moi, j'ai honte pour mon pays. J'ai très honte. Nous tous, nous aurons les yeux pour pleurer. D'un jour à l'autre, les choses iront très mal. Donc, je demande à ce que tous les journalistes qui sont derrière cette folklore qui se fait, mais qui se font dans le pays, j'ai à leur dire que vous aurez les yeux pour pleurer. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Espoir, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35. Après Espoir, un autre auditeur. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Ça va bien.
Votre nom, c'est?
C'est Souleymane de Hidranawe.
Souleymane, vous nous appelez depuis Hidranawe. Allez-y.
Oui. Je voulais demander à M. Eric que le président du conseil, là, qui va le nommer? Qui va nommer le président du conseil? C'est ça que je voulais savoir.
D'accord, celui qui va nommer le président du conseil. 90, 86, 35, 35. Allô?
Ah, bonjour, Bastien.
Bonjour, Basile. Comment vous allez?
Ah, c'est bien, bonjour.
D'accord, allez-y.
Il s'allait être en studio.
Oui, les confrères vous saluent aussi.
Ok, bon, pour leur dire pourquoi les deux de l'autre côté et Jean-Baptiste de l'autre, pourquoi ils rentrent dans la gorge de Jean-Baptiste qui est avec le qui parle à peu près ce que le peuple veut? Maradieu nous gêne. Et moi, je ne comprends pas. Tout ce qu'on fait, ce gouvernement ne veut pas une vie décente de la population togolaise. Vous voyez qu'on va venir dit qu'on a diminué le prix sur le carburant de 20 francs. Mais ils sont là-bas, eux qui supportent le gouvernement. Est-ce que le gouvernement un jour a augmenté le prix de 20 francs? Quand le gouvernement veut augmenter, c'est de 50 francs. C'est 50 francs qu'il veut augmenter, c'est 50 francs. Mais regarde, plus de 2 ans, il nous balance 2 francs à la pandémie comme ça. Bon, ceux qui disent, je ne comprends pas. Ça va comme ça. Ça, c'est encore le carburant seul. Les péages et tout ça, là, sont toujours là. Pourquoi est-ce que nous, on va être comme ça? Pourquoi, qu'est-ce qui nous a fait mériter ça au Togo? C'est ce que nous, on demande. Nous, ceux qui les supportent, et ils savent pourquoi ils les supportent.
D'accord, merci beaucoup Basile pour votre intervention. 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour madame ici.
Bonjour ici. Bon, moi j'arrive, mais normalement il faut en pleurer quoi. J'espère que ça se modeste, tout le monde va bien et que ça s'est payé bien. Voilà. Ça va, quoi. Bon, je vais parler de tout. Et puis. Ils ne veulent pas se permettre. Cinquième République. Et vous venez débattre depuis longtemps. Moi, je vous dis d'appeler le gouvernement. Le président en premier ne va jamais parler. Il n'a qu'à venir nous expliquer pourquoi il nous fait ça. Pourquoi il nous... C'est un genre de torture. C'est-à-dire, un peu plus là, dans l'expectative d'alterner d'autres biens, il nous bloque l'alternant tous les 5 ans. Et maintenant, il nous envoie la 5e République, et puis c'est vous qui venez nous expliquer. Non, c'est à lui-même de venir nous expliquer ce qu'il est en train de faire avec ce pouvoir. Et puis, il a baissé l'essence de 20 francs. Hein, tout ça là, il a baissé de 20 francs. Moi, je leur dis, ils n'ont qu'à passer la main la semaine prochaine pour voir. Ils nous disent que les caisses sont vides, non. Ils ont vidé les caisses, il n'y a plus d'argent. S'ils passent la main la semaine prochaine, par exemple, ou demain, je sais que j'achèterai l'essence à 250 francs le litre. Le ciment, c'est 5 000 à 30 000, ça suffira. Et puis tout le reste du gaz, le 5 kilos, je sais que je vais l'acheter, je pourrais l'acheter à 2 000 francs comme au Burkina. Et les 12 kilos, 5 000, 4 500, 5 000, ça suffira. Ils n'ont qu'à passer la main pour voir.
D'accord, merci.
Il n'a pas venu nous expliquer. Hein.
Ok, merci.
Pourquoi il nous fait ça,
quoi? Oui, madame, merci pour votre intervention, puisqu'il y a beaucoup de personnes en ligne pour s'exprimer également sur des sujets débattus ici au Club de la Presse, 90 86 35 35 91 36 sur 315. Allô?
Allô?
Bonjour. Bonjour, monsieur Kofi.
Oui. J'espère que vous allez. Moi, je vais sauter sur le débat côté foire. Votre collègue tout à l'heure disait que prendre les stands de l'État, parce que la foire, ce que je sais, c'est pour l'État, prendre les stands qu'on ne sait même pas quand et comment on les a mis en vente et quelqu'un va en prendre 3, 4, 5 pour vous vendre ce qui, normalement, constitue vol, la corruption, et votre collègue défend cela en disant que c'est du business. C'est seulement, c'est ahurissant. Vous là-bas, vous êtes des lanternes hein, pour nous éclairer. Vous n'allez pas faire l'apologie du mal, du vol. Merci.
Merci, monsieur Kofi, pour votre intervention. Bonjour, cher Pascal. Je vous remercie pour l'émission. La question de l'installation du Sénat au Togo est une foire de copains et copines pour se partager du lait. Je pense que les journalistes doivent reprendre le bâton de pèlerin pour s'imposer véritablement ce 4e pouvoir imaginaire au Togo. Un système qui viole les tests à ciel ouvert ne fait pas de démocratie que les Togolais s'organisent pour arracher leur souveraineté comme le peuple frère. préfet est ghanéen que de se bagarrer à cause du riz périmé au dépotoir. C'est Hervé qui nous écrit ce message depuis Accra. Et merci Hervé. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse de ce mardi. Allô?
Allô?
Oui, bonjour monsieur Gado.
Ah, comment allez-vous?
Ça va, et chez vous?
Oui, ça va. Je voudrais vous demander si un journaliste togolais est au Ghana pour superviser les élections. Si oui, c'est une bonne chose, il va venir aider le gouvernement à proclamer les résultats sans les chars. Secondo, je vais lancer un appel à Bébé Togo. Si Bébé Togo a quelque chose à faire pour la population, parce que la fête est proche d'utiliser le stade de Kégué et non le Dukutua, car Gado sera dans le lot. Merci, bonne journée.
Merci, bonne journée chez vous, monsieur Gado. Bonjour, monsieur Pascal. Par rapport à l'élection des sénateurs, c'est un non-événement. Au lieu de nous baisser les prix à la pompe, les gouvernants nous provoquent avec des insultes de 20 francs CFA de réduction. C'est vraiment une provocation vis-à-vis des Togolais. La situation en Syrie en dit long. C'est qu'aussi depuis... je n'ai pas bien maîtrisé quand même le quartier. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Très bien.
D'accord, allez-y.
Oui,
monsieur. Ah, monsieur Yao, allez-y.
Je remercie le gouvernement d'avoir fait l'effort de nous amener, de nous réduire au moins 20%. Je sais que de jour en jour, ils vont réfléchir et revenir sur ça. Donc, ils vont encore réduire. Le pouvoir, ça ne se passe pas les mains. Ça se donne par Dieu. Donc, ceux qui disent qu'on n'a qu'à passer les mains, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, le pouvoir, ce n'est pas dans les marchés, on prend ça. On prend ça dans les urnes. Donc, celui qui est fort, il n'a qu'à venir prendre ça dans les urnes. Merci, Canal FM.
Merci, monsieur Yao, pour votre intervention. Je pense que vous êtes le dernier auditeur, hein, pour le compte, lors de cette émission de, bien sûr, de ce mardi. Mais je lis la réaction d'un auditeur. C'est Maglib depuis Vilsam. Hein. Vilsam, je pense que c'est en Belgique. Et il nous suit depuis la Belgique. Il parle alors de la foi à Togo 2000. Pour toute foi, le bilan retrace toujours le nombre des fréquentation et les chiffres d'affaires en tout ceci est comparable alors aux fois précédentes afin de réajuster les éditions suivantes. C'est important. Il faut également recueillir les avis des exposants et visiteurs via un sondage et pour une amélioration continue des services et prestations. Il parle également du carburant. Est-ce que vous avez le ratio entre les subventions et les taxes? Quelles sont les différentes taxes sur les carburants? Normalement, ces informations doivent être connues et sues de tout Togolais et Togolaise. La vérité des prix est nécessaire et sa transparence. Il évoque également le Sénat dans la mesure où l'Assemblée nationale reste acquise à unir. Quelle est l'utilité du Sénat? Ce budget peut être alloué à d'autres urgences nationales, des dépenses inutiles, beaucoup d'institutions dont les membres ne sont pas au complet, des gouverneurs sans siège ou qui délogent les préfets, la RAC, votre organe de supervision en panne et vos collègues qui ont presque complété serment sont là à tourner leur pouce. Alors, c'est des réactions des auditeurs, puisque nous avons quand même pris cette habitude de lire aussi la réaction des uns et des autres, ceux qui nous suivent hein, partout à travers notre numéro WhatsApp 90 45 78 57 qui nous envoie surtout alors des messages. Chers confrères, nous allons revenir en plateau hein, pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Adam, vous avez écouté les uns et les autres, quelle votre réaction?
Bon, je pense que sur l'une des questions me concernant, sinon nous concernant, lorsqu'on dit on prend la défense, moi je pense que le journaliste il prend défense de quelqu'un. Non, nous faisons des recoupements et nous traitons les informations que nous mettons à la disposition du public. Tout à l'heure j'en parlais lorsque nous prenons le cas du pétrole, je disais c'est un sujet hautement sensible et qu'il est très difficile dans l'absolu d'avoir une formule qui puisse te permettre de pouvoir tenir un raisonnement qui tient compte d'un certain nombre de choses. C'est en cela que nous avions estimé que, c'est vrai, comparant donc les dits des uns des autres pour que chacun puisse donc tirer le meilleur. Mais ce que j'aimerais également rebondir sur la question de la foi, puisque ça a été une question qui a suscité beaucoup, en tout cas d'engouement au sein de la population, ce que j'aimerais dire, c'est justement faire en sorte que nous interpellons le DG à prendre en compte l'intérêt général dans sa gouvernance de cette foire-là. Parce que le chef de l'État avait dit, faudrait quand même que les réformes puissent prendre en compte l'humain. On ne peut pas dire qu'on met à côté l'humain sans véritablement et dire qu'on veut faire des chiffres. Ça n'a pas de sens. Ça voudrait dire quelque part qu'on n'a pas le sens de l'intérêt général. Il faudrait quand même que l'intérêt du sens général puisse prévaloir dans l'organisation de cette foire-là. J'en ai fini.
D'accord. Merci, Adam. Eric?
Je voudrais commencer par Souleymane qui a demandé qui va élire le président du Conseil
tout à fait.
Des ministres. Oui, ça, c'est connu de tous que le président du Conseil des ministres, c'est le président du parti majoritaire à l'Assemblée nationale.
Voilà, c'est ce que la Constitution dit.
Voilà. Et donc, et une fois arrivé devant les députés, il y aura un vote sans débat. Et donc, c'est ce qui est prévu. Voilà. Et je voudrais dire à M. Basile que moi, Eric Johnson, je lui dis qu'il comprenne très bien que je ne suis pas en meeting populaire ici. Je viens à un débat. Et ça, c'est un débat intellectuel. Et quand je parle, qu'il essaie de mieux comprendre ce que je dis. Si M. Jean-Baptiste Atissot dit ce que le peuple veut entendre et il pense que moi je dis ce que le peuple ne veut pas entendre, ça c'est son problème. Mais moi je lui dis clairement, la prochaine fois qu'il va encore s'en prendre à moi par rapport à ce que nous disons ici, parce que nous faisons un débat, il faut qu'il arrête. Parce que parfois même, il n'écoute pas l'émission, il se jette pour raconter n'importe quoi. Moi, je ne suis pas à un meeting populaire. Je suis à un débat intellectuel.
Effectivement, nous sommes à un débat intellectuel. Alors, et Eric,
ce que le peuple veut entendre, qu'ils l'entendent. Mais lorsqu'on leur dit, ce peuple-là, c'est ce peuple-là qui va voter. Vous voulez des changements, faites des changements à travers les urnes. Ce n'est pas en venant raconter n'importe quoi ici que vous pensez que vous changez quelque chose. Moi, je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. Je suis là pour faire un débat.
Effectivement.
D'abord, quand on parle de la Constitution de la Ve République, mais c'est une information qu'un journaliste doit traiter. Que le journaliste le traite de façon à orienter son auditoire, mais tant mieux. Mais moi, je donne une information, parce que lui qui est là, est-ce qu'il connaît le nombre de sénateurs pour lesquels on doit voter? Il ne le sait même pas. Et est-ce qu'il sait ce qui constitue le corps électoral aujourd'hui? C'est des informations que je donne. Mais sans parti pris.
Et on fait des analyses.
Et on fait des analyses autour de ça. Il faut qu'il arrête ce monsieur.
D'accord, merci. Et Jean-Baptiste?
Et non, il y a un autre qui parlait de la foire. Mais quand on fait l'apologie du mal, attention, il faut qu'il comprenne la loi du marché. On dit qu'il y a un marché. Nous sommes dans un centre de business. Il parle de corruption, il parle de fraude. Je n'en sais rien. Mais tout ce que je constate, c'est que lorsque vous allez à une foire, vous pourrez prendre autant de stands parce que c'est ouvert. Les gens prennent des stands et après ils font leur business. Voilà. Moi, je m'en fous.
D'accord.
C'est un constat.
Voilà, merci Eric. Oui, Jean-Baptiste, rapidement. Oui.
Bon, je crois qu'il y a deux sujets sur lesquels je vais revenir rapidement.
Rapidement.
La plupart des auditeurs ont quand même évoqué le sujet d'actualité qui est le carburant. Je crois que je suis d'avis avec eux, et on l'a dit ici que
la diminution de le
Jean-Baptiste, les gères,
on convient que ce n'est pas ça, parce que le problème fondamental que nous avons concernant le carburant au Togo, c'est que le gouvernement n'adopte pas une vérité des prix, parce que d'abord même la formation même de ce prix, le prix du carburant, c'est-à-dire pourquoi c'est aujourd'hui à 680 francs le litre. On doit savoir quels sont les ingrédients, c'est-à-dire les rubriques qui entrent en jeu.
Oui, on en avait parlé dans le débat.
Non seulement ça, il y a deux... Non, laisse-moi...
Non, mais c'est parce que le temps...
Oui, mais il y a la vérité des prix et puis la formation même du prix des produits pétroliers, parce que le problème fondamental que nous avons au Togo, c'est qu'on ne connaît pas comment est-ce que les prix sont formés, et maintenant, il y a aussi de l'autre côté, la vérité des prix. Donc, ces deux aspects, je crois que le gouvernement doit quand même communiquer davantage là-dessus pour que les Togolais soient situés. Sinon, on est d'avis que c'est une injure par rapport à cette infime diminution.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste Atisso, pour avoir participé à ce débat. Adam Adronou, merci à toi aussi d'être passé dans cette émission. Eric Pakoudou-Josson, merci à toi d'être passé. Merci d'avoir contribué à ce débat avec vos réflexions. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous qui nous avez appelés aussi, merci à vous, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Thomas Etek aussi d'ATV était à la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Géraud Akoucha. Je suis Pascal Oussou. Je vous retrouve demain mercredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.